Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce dimanche 13 juin. Avec vous, Jean-Noël Ducasse pour une heure en français. Au sommaire, le journal, les sports, le personnage de la semaine. Et on parlera de sommeil pour les bébés avec Noémie. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Et tout d'abord, les grands titres de ce 13 juin. Le Premier ministre Scott Morrison réitère que les relations de l'Australie avec la Chine restent importantes malgré les récentes disputes. Le Premier ministre était au sommet du G7. Les autorités sanitaires dans le Victoria poursuivent la recherche de la source du seul cas de COVID-19 acquis localement hier. Tennis, la Tchèque Barbora Krejčíková remporte son premier titre du Grand Chelem à Roland-Garros à Paris. Le Victoria a enregistré un nouveau cas de COVID-19 hier, acquis localement. Le ministère de la Santé affirme que le nouveau cas est un cas contact d'une personne déjà infectée et qu'ils ont été placés en quarantaine tout au long de leur période infectieuse. Cela survient alors que les autorités s'efforcent de lier le cas local de samedi à l'épidémie de variante Kappa. Le cas mystérieux est un homme vivant dans le centre de Melbourne avec sa jeune famille qui a fait tout ce qu'il fallait lorsqu'il a présenté des symptômes. Mais le commandant des tests du COVID dans le Victoria, Jerome Waymar, se dit préoccupé par les cas non découverts en raison des faibles taux de tests. Pendant ce temps, l'Australie s'est engagée à fournir 20 millions de doses de vaccins COVID aux pays d'Asie du Sud-Est et du Pacifique. Le chef du Victoria, Daniel Andrews, a annoncé qu'il reviendrait au travail plus tard ce mois-ci, soit le 28 juin prochain, après avoir subi des blessures à la colonne vertébrale en mars dernier. Daniel Andrews était soigné au centre de trauma de l'hôpital Alfred à Melbourne. Il s'est cassé plusieurs côtes lorsqu'il a glissé sur les escaliers d'une maison de vacances dans la péninsule de Mornington et a subi une fracture aiguë de la vertèbre T7. Daniel Andrews a quitté l'hôpital Alfred le 15 mars dernier et se rétablit depuis chez lui à la maison. Il dit qu'il se sent bien et a remercié sa femme, ses enfants et le personnel médical pour leurs soins. Il a également remercié le chef par intérim du Victoria, James Merlino, d'être intervenu et d'avoir dirigé l'État à travers une période vraiment difficile lors du quatrième verrouillage dû au COVID-19 dans l'État. Le Premier ministre australien Scott Morrison a rencontré pour la première fois le président américain Joe Biden en marge du sommet du G7 en Angleterre. Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est également joint à eux pour une discussion de 40 minutes. Scott Morrison déclare que c'était une réunion d'amis et d'alliés qui partagent une vision du monde et une belle opportunité. L'Australie est présente comme une nation, je cite, « invitée à ce sommet » de cette année par Boris Johnson, permettant à Scott Morrison de participer à plusieurs sessions avec les dirigeants du G7. Et ses dirigeants ont lancé un plan pour aider à construire des infrastructures dans les pays les plus pauvres, offrant un partenariat axé sur les valeurs de haute qualité, en opposition à l'initiative chinoise de la route de la soie. L'adoption du projet Build Back Better World, d'inspiration américaine, intervient après que le président américain Joe Biden et les dirigeants du G7 se soient rencontrés pour aborder la concurrence stratégique avec la Chine. Les dirigeants se sont également engagés à prendre des mesures pour aider à répondre aux besoins en infrastructures des pays à revenus faibles et intermédiaires dans l'espoir de contrer l'influence de la Chine dans les pays d'Asie, d'Amérique latine et d'Europe. Le Premier ministre australien Scott Morrison déclare que l'Australie soutient une région indo-pacifique stable.
Australia has benefited greatly from China's economic success. China has benefited greatly from Australia's trade with them. And of course, we want to see that continue. We have a comprehensive strategic partnership with China. And partnerships are about managing issues that occur within the relationship. We, of course, would like to see the dialogue that was occurring to continue again and start again.
Et le Premier ministre Scott Morrison a renouvelé ses appels à une enquête approfondie sur les origines du Covid-19 au milieu d'une deuxième journée de réunion au sommet du G7. Lors du forum sur la santé, l'hypothèse de la fuite de laboratoires sur les origines du Covid-19 a été discutée, le communiqué final du sommet étant susceptible d'appeler à une nouvelle enquête de l'Organisation mondiale de la santé. Scott Morrison déclare qu'une autre enquête aiderait à prévenir de futures pandémies et le but des enquêtes est de comprendre et de ne blâmer personne.
Today's session, though, focused very much on ensuring there was greater transparency. Transparency, letting the sunlight in when it comes to understanding how this calamitous pandemic has impacted on the world. And again, not seeking to apportion, it's not about apportioning the blame, it's not about politics, it's not about anything. It's how could this have been avoided?
Le directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, est d'accord avec Scott Morrison et a déclaré que la coopération et la transparence du côté chinois étaient nécessaires. L'enquête initiale de l'OMS a révélé qu'une fuite de l'Institut de virologie de Wuhan était extrêmement improbable. Et puis les manifestations se sont poursuivies au milieu d'une autre journée de réunion du G7 à Cornwall. Le changement climatique est l'une des principales questions à l'ordre du jour du sommet. Mais les militants affirment que les politiciens ont fait des promesses creuses en matière d'action climatique. Certains ont même reconstitué une marche médiévale pour attirer l'attention sur ce qu'ils appellent les crimes environnementaux du monde moderne. Richard Eccleston, un militant de 59 ans, déclare qu'il faut faire davantage.
Our theme for today is the fact that G is for greenwash. So what we're saying is that we understand what the government and big business are doing. They are basically painting a story like they're doing what needs to be done for the climate and ecological emergency. But we know that they're not. So we're just bringing that to their attention, that we're watching them and we.
Et voilà, Richard Eccleston, un militant de 59 ans. Claire Broadhurst pour Radio France Internationale revient maintenant sur des dossiers épineux à ce sommet du G7.
Le dossier qui empoisonne tout depuis le début continue à faire des vagues. Ce sont les dispositions commerciales spécifiques à la province britannique qui sont au cœur du différend. Des contrôles sur certains échanges entre la Grande-Bretagne et la province au nord de l'île sont prévus pour éviter qu'ils aient lieu avec la République du Sud. Les dirigeants européens appellent au respect des accords signés et à trouver une solution pragmatique. Sans surprise, le secrétaire d'État aux affaires étrangères britannique, Dominic Raab, n'a pas mâché ses mots. Il a exigé que l'Union européenne cesse d'être aussi têtue et obstinée lorsqu'il s'agit du protocole étudié pour l'Irlande du Nord. Nous ne laisserons pas l'intégrité du Royaume-Uni être menacée, a-t-il ajouté. Et Boris Johnson a été clair dans une interview à la presse anglaise ce samedi, si ses anciens partenaires refusent de faire preuve de souplesse, il n'hésitera pas à invoquer l'article 16 qui l'autorise à passer outre certaines dispositions du protocole nord-irlandais en cas de graves difficultés économiques, sociétales ou environnementales. Il faut qu'il se rentre ça dans le crâne, a-t-il conclu.
En France, maintenant, la marche des libertés contre l'extrême droite dans tout le pays hier à une semaine du premier tour des élections régionales. Marine de la Moissonnière était à Paris pour Radio France Internationale.
Des revendications multiples mais incoupables, Emmanuel Macron, que beaucoup de manifestants accusent de faire le jeu du Rassemblement National, Caroline, 65 ans, gilet jaune et militante d'attaque.
Il est extrêmement important d'arrêter cette espèce de maelstrom où tout le monde court derrière l'extrême droite. Il n'y a plus de conviction, c'est simplement des ambitions personnelles, mais c'est lamentable. Nous, les Français, les trois quarts des Français, on ne veut pas ça.
Ils ne sont pourtant pas nombreux dans la rue cet après-midi. Eric, 31 ans, travaille dans la culture. Il n'est pas surpris.
Le maintien de l'ordre des précédentes de manifestations fait qu'il y a moins en moins de gens qui vont venir de toute façon parce que les gens aussi ont peur de se prendre des gaz lacrymogènes, des flashballs ou juste de se faire nasser par la police. Donc Emmanuel Macron a érodé aussi les mouvements sociaux depuis un certain temps. Aujourd'hui, c'est juste la conséquence.
Alors, est-ce que les sympathisants de gauche vont se faire entendre aux élections? Pas sûr, reconnaissent ces manifestants qui, comme Léonie, conseillère conjugale venue de Saint-Nazaire, demandent à leurs représentants politiques
d'être moins cons les uns les autres, à se tirer dans les pattes. À un moment, il faut s'unir, quoi. On n'a pas le choix, en fait.
S'unir contre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, voilà le seul dénominateur commun de la gauche pour l'instant.
Et puis Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, qui a pris part à cette marche, a été enfariné. On écoute sa réaction.
Ça va, il ne m'a pas tiré dessus, c'est déjà ça.
Non, mais ça vous attendez.
Bon, c'est la violence, je vous l'ai dit il y a un instant. Bon, je ne sais pas qui est la personne qui... Mais elle a réussi son coup, parce que comme vous êtes tous là, bah, le spectacle est assuré. Bon, bah, ça va, je n'ai pris que de la farine, je suis vivante. Ouais, il y a une grande tension. Hein. Je vous l'ai dit, c'est vraiment un seuil qui a été franchi. Et maintenant, je ne sais pas si vous ne me voyez pas plus ému que ça. C'est peut-être parce que ça aurait pu être pire.
En Allemagne, maintenant, avec le congrès hier des écologistes, avec Annalena Baerbock désignée comme candidate du parti écologiste à la chancellerie. Son portrait par Delphine Nerbollier pour Radio France Internationale.
Annalena Baerbock incarne un changement de génération et de style chez les Verts allemands. Cette jeune députée de 40 ans, mère de deux enfants, est une réalo, une réaliste, comme on les appelle en Allemagne. Spécialiste des questions climatiques et énergétiques, elle prône un changement rapide sur les questions environnementales, associée à une justice sociale. Européenne convaincue, elle a été élue pour la première fois au Bundestag à l'âge de 32 ans. Dans cette carrière express, elle prend la tête du parti en 2018 avec son complice Robert Habeck. À eux deux, ils ont réussi à mettre en sourdine les conflits qui caractérisaient jusque-là leur formation. Les Verts ont un atout, la question climatique, leur sujet phare, est devenu central dans le débat politique. Seule femme à viser la chancellerie cette année, Annalena Baerbock est attaquée de toutes parts et a commis des erreurs qui ont coûté des points précieux à son parti dans les sondages ces dernières semaines. Mais cette ex-championne de trampoline est habituée à la compétition. La chef de file des Verts sait qu'il faut avoir de l'endurance dans ce genre de campagne électorale.
La journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, c'était hier, le 12 juin. On écoute Marianne Libertucci, responsable du service plaidoyer et expertise à l'UNICEF.
C'est vrai qu'avec des écoles qui parfois sont fermées dans certains pays depuis plus d'un an, depuis le début de la pandémie, c'est le cas par exemple dans des pays comme la Bolivie où on voit énormément d'enfants qui ne vont plus à l'école depuis tellement longtemps que finalement ils se sont tournés vers le travail et pour beaucoup ne retourneront jamais à l'école. Donc la pandémie a accentué en fait des phénomènes qui déjà étaient un peu inquiétants car effectivement le travail des enfants était en hausse par rapport aux années précédentes avant la pandémie, mais avec la pandémie, la fermeture des écoles, la précarité qui s'est accentuée, eh bien, les enfants au travail sont encore plus nombreux dans le monde. Si on regarde les chiffres par région, il y a quand même des situations de fragilité en Afrique subsaharienne, de crise avec des conflits, des catastrophes naturelles qui finalement impactent la vie des enfants, que ce soit par des migrations forcées, par la fermeture des écoles, par une précarité aiguë, avec un contexte en plus de changement climatique dont l'impact est particulièrement fort dans la région.
L'exportation du café chute dramatiquement en Colombie suite aux manifestations contre le gouvernement du président Iván Duque. Précision d'Altine Lazage pour RFI.
Les manifestants en colère mettent en place des barrages sur les principaux axes routiers qui empêchent l'acheminement des grains de café vers les ports. La Fédération colombienne des caféiculteurs s'inquiète des conséquences économiques pour des milliers de petits producteurs. En raison des retards de livraison qui s'accumulent, ils perdent des clients à l'étranger. Le secteur fait en effet vivre près de 540 000 familles paysannes et les revenus d'environ 3 millions de personnes en dépendent. La production du café est l'un des piliers de l'économie colombienne. Le pays est le troisième producteur mondial après le Brésil et le Vietnam et le premier pour sa production arabica doux, une variété appréciée pour son goût. Le café est également l'un des principaux produits d'exportation après le pétrole et les minéraux.
On passe à la météo pour ce dimanche en Australie, à Perth. Il fera 19 degrés, Adélaïde 19, Melbourne 16, Hobart 15, Canberra 13, Sydney 19, Brisbane 23, Cairns 29, Darwin 31, Alice Springs maximale de 24 degrés. Un rappel des grands titres de ce 13 juin, le Premier ministre Scott Morrison est au sommet du G7 et réitère que les relations de l'Australie avec la Chine restent importantes malgré les récentes disputes. Les autorités sanitaires dans le Victoria poursuivent la recherche de la source du seul cas de COVID-19 acquis localement hier. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Journal des sports de ce dimanche, avec tout d'abord le tournoi de Roland-Garros, la finale des dames, hier remportée par la Tchèque Barbora Krejčíková. Elle est donc la nouvelle championne de Paris. On l'écoute.
Heureuse, je suis tellement heureuse, tellement contente. C'est un rêve qui se réalise. C'est difficile pour moi de mettre des mots sur ce que je ressens. Il y a tellement de choses qui se bousculent dans ma tête. En tout cas, je veux rester moi-même. Bien sûr, des choses vont changer autour de moi avec cette victoire. Mais je veux rester cette petite fille de ma petite ville qui jouait quand elle était jeune avec ses balles de tennis.
Et maintenant, la réaction de Camille Pain, ancienne joueuse française.
Regardez, depuis 5 ans, chaque grand chelem est complètement inattendu. Il y a peu de récurrence, à part Osaka et Barty, un petit peu plus. Mais on est loin de l'ère des Hénin, Clijsters, les Williams, où on avait un espèce de peloton de tête fort. J'ai l'impression que mentalement, c'est pas tennistiquement, parce que je trouve que ça joue très très bien. Je trouve qu'il y a un manque de constance et qu'elles ont des émotions comme toutes les autres joueuses qui sont 20e et que certaines fois, elles ne le gèrent pas et donc elles passent à la trappe.
Chez les messieurs, en double, la paire française, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut sont les champions de Roland-Garros pour la deuxième fois. Ils ont battu les deux Kazakhs, Alexander Bublik et Andrei Golubev en finale. Nicolas Mahut, très émotionnel après le match. On l'écoute.
Voir ce public-là, c'est... on avait des frissons en permanence. Et à la fin, effectivement... C'est un peu les nerfs qui lâchent et c'est cette vague d'émotions qui nous submerge. Et c'est très difficile de la contenir parce que c'est que du bonheur. Et en même temps, on sait que c'est éphémère. Ça dure vraiment très peu de temps, ce sentiment où on a l'impression qu'il ne peut rien nous arriver. C'est un mélange de bonheur, c'est un mélange de soulagement aussi, parce que c'était difficile. C'était un match qui était compliqué pour nous, ça n'a pas été notre meilleur match en termes de niveau de jeu. Mais on s'est accroché, on voulait vraiment offrir cette victoire aussi au public. On a ce sentiment-là de plus en plus de revenir à une vie normale. Et c'était incroyable de partager ça avec eux.
Ce dimanche, donc, la finale des messieurs entre Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas. Et maintenant, la réaction de Patrick Mouratoglou, qui a découvert Stefanos Tsitsipas en 2014.
Stefanos est grec, et moi, j'ai mon père qui est grec, donc je suis à moitié grec. Donc j'ai évidemment eu toujours une attention particulière pour le tennis grec. Et puis le tennis grec, il n'y a pas de tennis grec quasiment. Il n'y a pas d'histoire tennis en Grèce. Et donc j'ai entendu parler d'un jeune qui avait 16 ans qui jouait pas mal. Et donc j'ai cherché sur internet et je suis tombé sur une vidéo en YouTube de lui qui jouait un match. Et j'ai beaucoup beaucoup aimé ce que j'ai vu. J'ai vu un compétiteur, j'ai vu un guerrier. Et donc je lui ai proposé de venir une semaine à l'académie pour qu'on se connaisse. Voilà, il avait 16 ans et puis bah, il est plus jamais reparti. Donc j'ai mis en place toute une équipe parce que je pensais que ce gars-là, il avait un potentiel pour devenir un jour numéro 1 mondial. Et je le pense encore plus aujourd'hui, mais j'ai toujours pensé. Donc c'est pour ça que c'est une super histoire, hein, parce qu'il vient de nulle part, Stefanos. Hein.
On passe au foot avec l'Euro hier et le Danois Christian Eriksen, 29 ans, victime d'une malaise cardiaque apparemment lors du match contre la Finlande. Précision de Thomas de Saint-Léger pour Radio France Internationale.
Christian Eriksen s'écroule tout seul brutalement le long de la ligne de touche, victime apparemment donc d'un malaise cardiaque. Immédiatement, les autres joueurs comprennent la gravité de la situation. Ils se précipitent vers leur numéro 10. Simon Kier, le capitaine, va alors lui faire un premier massage cardiaque avant l'intervention de l'équipe médicale, des médecins qui, pendant 13 minutes très exactement, vont tenter de réanimer un Christian Eriksen inconscient à ce moment-là. 13 minutes, je vous le disais, qui ont paru interminables pour tout le monde. Les joueurs danois en pleurent, le visage caché entre les mains. Ils formaient un cercle autour de leurs coéquipiers. Les adversaires finlandais choqués également, les 16 000 spectateurs KO debout. Le temps semblait s'être arrêté dans ce stade de Copenhague jusqu'au moment où Eriksen sera finalement évacué sur civière, un masque à oxygène sur le visage, sous les applaudissements du public. Vous l'avez entendu, immense frayeur, immense émotion. Rappelons qu'avec ses 109 caps, Christian Eriksen est le meneur de jeu, le guide de cette sélection danoise, qu'il rêvait comme elle d'aller loin dans cet Euro. Pour l'instant, on va seulement lui souhaiter d'aller mieux, d'aller bien dans les heures qui viennent, parce qu'aujourd'hui, il nous a fait très peur à tous.
Et on passe maintenant au bilan des trois matchs d'hier. Dans le groupe B, donc, le Danemark jouait contre la Finlande, la Belgique contre la Russie, et dans le groupe A, la Suisse jouait contre le Pays de Galles. Sarah Loubacouche et Cédric De Oliveira pour RFI.
Après la frayeur Eriksen, les Danois ont finalement été battus à domicile. Mais il faut dire qu'après ce malaise de leur idole, les Danois n'étaient plus vraiment dans le match, même si c'est eux qui avaient demandé à reprendre la rencontre. En atteste ce pénalty manqué d'Højbjerg dans le dernier quart d'heure de jeu. La Finlande s'est donc imposée 1-0 dans ce derby nordique pour sa toute première dans une grande compétition. Une victoire historique grâce à cette réalisation de Pojan Palo, le buteur qui va sûrement rester un héros national.
Voilà, la Finlande grappille grâce à Pojan Palo 3 points et prend la tête du groupe B aux côtés de la Belgique, l'autre vainqueur du soir.
Les Diables Rouges qui ont triomphé des Russes 3-0 à Saint-Pétersbourg. Les Belges qui font partie des grands favoris de la compétition, des Belges 3e du mondial qui comptent enfin remporter un titre majeur. Ils peuvent en tout cas compter sur leur taulier Thomas Meunier et Romelu Lukaku, tous deux buteurs ce soir. Hein, le colosse d'origine congolaise, auteur d'un doublé, c'est aussi lui qui a ouvert le score.
Un but tout en panache suivi d'un beau geste vers Christian Eriksen.
C'est le coéquipier de Lukaku à l'Inter Milan. L'attaquant a donc adressé un message de soutien aux Danois. Après son but, le buteur belge s'est dirigé tout droit vers une caméra et il s'est exclamé « Christian, I love you, Christian, je t'aime ».
Eh ben, un mot du groupe A aussi. Plutôt dans la journée, les Gallois se sont frottés aux Suisses. Finalement, ça a donné un match nul un partout. Un nul qui permet de dessiner un peu plus clairement les contours de cette poule.
La Suisse pensait pourtant avoir fait le plus dur en ouvrant le score en début de seconde période avec un but d'Embolo. Mais la réalisation du natif de Yaoundé n'aura finalement pas suffi. Les Gallois ont profité du relâchement de la Nati pour égaliser dans le dernier quart d'heure de jeu. Résultat, un nul plutôt laborieux, un partout. Une issue qui permet en tout cas à l'Italie, victorieuse de la Turquie 3-0 hier soir, d'être seule en tête du groupe A.
Et se focus maintenant sur l'Écosse qui dispute l'Euro pour la première fois depuis 1998. Martin Guèze et Tom Rossi pour RFI.
Flower of Scotland, l'hymne frisson de l'Écosse qui résonnera lors de cet Euro. Notre cueilleur de fleurs aujourd'hui, lui, ne porte pas de kilt mais n'a pas froid aux yeux. Tom Rossi.
Non, on est resté sobre ce soir.
Ouais, pas de courant d'air ce soir pour vous, Tom. Cela fait 23 ans hein, qu'on n'avait pas vu les footballeurs écossais participer à une compétition internationale. Vous étiez à peine né d'ailleurs, Tom Rossi.
Ce sera donc une première pour l'Écosse au 21e siècle, Martin. La dernière fois, c'était à la Coupe du Monde 1998 en France. Les Écossais sont donc de retour. Ils vont pouvoir chanter à tue-tête Flower of Scotland lors d'une compétition internationale de football. Et ce sera en plus à domicile à Glasgow. Premier match le 14 juin contre la République tchèque. Sur le terrain, en tribune, il y aura, soyez-en certains, beaucoup d'émotions, de la passion après 23 ans d'absence, une véritable union sacrée.
Et celui qui a réussi à fédérer autour de cette sélection, Tom, il s'appelle Steve Clarke.
Le technicien a pris les rênes de l'équipe en mars 2019 après une défaite au Kazakhstan et une victoire poussive à Saint-Marin au début des éliminatoires. Il réussira ensuite à emmener l'Écosse jusqu'au barrage. Elle battra alors Israël, puis la Serbie, les deux fois au tir au but pour se qualifier pour l'Euro. Cette équipe, elle dégage enfin quelque chose, explique Loïs Guzukian. Il est le cofondateur de la page Twitter Scottish Football.
Quand il est arrivé, il a forcément un peu tâtonné au début parce qu'il récupérait un groupe qui avait pas d'âme, qui avait pas d'énergie, qu'on semblait pas impliqué. Et il a réussi à créer un groupe vraiment uni. Avant, les joueurs allaient en Écosse parce que bon, c'est la nation, faut y aller. Mais on sentait pas vraiment cette flamme de vouloir représenter le pays. On sentait que c'était entre guillemets une obligation. Là, tous les messages qui ressortent des joueurs, c'est une fierté d'y être, on a envie d'y aller, on est super content, on sent qu'il y a des vrais liens, il y a une vraie passion, il y a quelque chose qui s'est créé. Et du coup, ça change tellement la donne. Et maintenant, on a l'impression d'avoir une vraie nation en face de soi. Et ça, c'est un grand plaisir.
Et l'Écosse jouera contre la République tchèque demain lundi. La Copa América, c'est à partir de ce dimanche avec le match d'ouverture entre le Brésil et le Venezuela. La Colombie jouera contre l'Équateur. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Comme chaque dimanche, nous revenons à présent sur un événement marquant de l'actualité et une personnalité qui lui est associée. Pour nous en parler, nous sommes avec Émile Matasso. Bonjour à vous, Émile.
Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous.
Focus aujourd'hui sur Stéphanie Frappard.
Elle est française, Stéphanie Frappard. Elle est âgée de 37 ans. Son métier, arbitre. Stéphanie Frappard, arbitre de foot, et elle est parvenue, on va le voir, à se faire une place au milieu des hommes en noir, les arbitres masculins. C'est une pionnière. Ce vendredi 11 juin, elle officie en tant que quatrième arbitre lors du match d'ouverture de l'Euro de foot à Rome, rencontre entre l'Italie et la Turquie. L'arbitre du match était un homme, un néerlandais, Danny McKelly, mais qu'une femme, en l'occurrence Stéphanie Frappard, fasse partie du corps arbitral, quatrième arbitre à l'Euro de foot, c'est une grande première. Si jamais l'arbitre central s'était blessé durant la rencontre, bien c'est elle qui aurait pris le relais au sifflet. Stéphanie Frappard, qui a été retenue par l'UEFA pour cet Euro en avril dernier, alors a priori, durant toute la compétition qui va durer jusqu'au 11 juillet, son rôle devrait se cantonner à ce rôle de quatrième arbitre pour les matchs où elle sera retenue, le quatrième arbitre que vous voyez le long de la ligne de touche, à hauteur de la ligne médiane, hein, pour activer, pour montrer les tableaux lumineux lors des changements de côté, ou pour le temps additionnel, ou bien pour rappeler à l'ordre les sélectionneurs quand ils sont un peu trop véhéments et qu'ils sortent de l'air, la zone qui leur est délimitée. Mais qui sait, si certains arbitres se blesse peut-être pendant cet Euro, peut-être qu'elle prendra des galons, Stéphanie Frappart, pendant la compétition. En tout cas, elle est la seule femme ainsi retenue et on va revenir sur son parcours. Elle n'a absolument rien à envier aux arbitres hommes. On peut même s'étonner que l'UEFA ne soit pas allée plus loin, plus vite, en lui confiant dès cet Euro 2021 le sifflet pour certains matchs.
Il y a quelques mois, elle a arbitré, là pour de vrai, en tant qu'arbitre principal, un match de Ligue des champions masculine.
Oui, en décembre dernier, le 2 décembre 2020, Stéphanie Frappart est devenue la première femme arbitre centrale, arbitre principale d'un match de Ligue des champions masculine, une rencontre de la phase de poule entre la Juventus de Turin et le Dynamo de Kiev. Une marche de plus pour elle à ce moment-là, après avoir en août 2019 arbitré le match de Supercoupe d'Europe entre Liverpool et Chelsea, en octobre 2019 un match de Ligue 1 et quelques mois plus tôt, il y avait eu donc ce match de Ligue 1 entre Lyon et Marseille, mais quelques mois plus tôt en avril, un premier match de Ligue 1, le championnat de France, entre Amiens et Strasbourg. Avril 2019, là, depuis 2014 en fait, Stéphanie Frappart, eh bien, elle officiait en Ligue 2, la deuxième division française. On l'a vu aussi arbitrer des rencontres de la Coupe du Monde féminine de foot de 2019 en France. C'est elle qui était au sifflet pour la grande finale, les États-Unis face aux Pays-Bas, hein, cette finale du mondial remportée par les Américaines et leur buteur Megan Rapinoe. C'était elle l'arbitre ce jour-là. Et donc, retrouver Stéphanie Frappart à l'Euro de foot masculin n'a rien de surprenant. Elle a gravi patiemment tous les échelons de l'arbitrage professionnel et surtout le monde du foot féminin, mais aussi masculin. Le monde du foot est unanime pour saluer la qualité de son arbitrage et c'est bien là l'essentiel. Elle n'est pas là seulement parce que l'UEFA et les différentes instances du foot veulent se donner bonne conscience. Non, on ne lui donnerait pas des matchs si importants à arbitrer si c'était le cas. Elle rassemble toutes les qualités requises et que ce soit dans la presse ou de la part des joueurs qui ont eu affaire à elle, eh bien, il n'y a eu aucune polémique, aucune réserve. Au contraire, chacun relève combien Stéphanie Frappart a toute sa place en tant qu'arbitre.
Qu'en dit-elle, elle, Stéphanie Frappart, de cette situation et de ce rôle de pionnière qu'elle joue ?
Bien, la francilienne, elle est originaire du Val d'Oise, hein, ne se revendique pas comme une féministe, une militante. Non, elle n'aime pas ces mots. Bien sûr, elle reconnaît l'importance que sa position, sa carrière peut avoir. C'est une précurseur, elle ouvre la voie pour d'autres arbitres femmes. Mais elle veut avant tout qu'on la regarde, et on peut la comprendre, comme une arbitre qui fait bien son travail, peu importe qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme. C'est une belle évolution, une reconnaissance de mes qualités et de mes compétences, lâche-t-elle. Stéphanie Frappart, qui jouait au foot plus jeune, mais qui très vite, eh bien, a compris qu'il y avait un créneau, une voie à défricher avec l'arbitrage. Stéphanie Frappart qui précise, c'est ma ligne de conduite depuis le départ. On me choisit pour mes compétences et pas pour mon genre. Sur le terrain, pas question de faire des sentiments. Hein. Les joueurs, que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions, dans ce match entre la Juventus et le Dynamo de Kiev, les joueurs, après coup, ont tous mis en avant sa fermeté, mais aussi son sens de la diplomatie. Elle sait discuter quand il le faut avec les joueurs. Elle a une petite voix, mais un charisme très important qui force le respect. Et peut-être même que les joueurs hommes, à très haut niveau, hein, parce que ça n'a pas toujours été le cas, peut-être quand elle a débuté chez les amateurs, où là, la misogynie pouvait être présente, en tout cas des colibés qui descendaient parfois des tribunes. Mais là, à très haut niveau, peut-être que finalement, comme son arbitrage est de qualité, eh bien, les joueurs se permettent moins de remettre en cause les décisions, si c'était un arbitre homme, hein, dans un sport où le foot, où chaque coup de sifflet, quasiment chaque décision est contestée. Stéphanie Frappart, elle n'est pas la seule arbitre femme au plus haut niveau. En septembre 2017, 2017, par exemple, l'Allemande Bibiana Steinhaus avait arbitré un match de Bundesliga, le championnat allemand. Première fois à l'époque qu'une femme arbitrait un match de Bundesliga et même un match dans un grand championnat européen. Mais on l'a dit, là, Stéphanie Frappard, elle a été la première à arbitrer en Ligue des Champions, et la voilà à l'Euro de foot, ce qui est une première également, et peut-être et même très vraisemblablement la Coupe du Monde au Qatar en 2022 pour elle. On se souvient, autre précurseur en France, de Nelly Viennot. Pendant 10 ans, elle a été arbitre assistante dans le championnat de France, la Ligue 1, mais Nelly Viennot, elle, n'avait jamais été arbitre de champ. Stéphanie Frappard, qui a été élue en 2019-2020 meilleure arbitre féminine du monde par la Fédération internationale de l'histoire et de la statistique. Elle a reçu l'ordre national du mérite en 2019. Elle a une forme physique, athlétique exceptionnelle. En général, dans un match, elle parcourt plus de distance de kilomètres que ses pairs masculins. Elle veut être au cœur du jeu. Elle aime donner de la fluidité au jeu, elle ne siffle pas à outrance, hein. Laissez jouer le plus possible, pas de coup de sifflet intempestif. La Fédération française veut se servir de cet exemple pour inciter, bien entendu, les jeunes filles, les jeunes femmes à vouloir devenir arbitres, à oser franchir le pas, à passer les diplômes. 3% seulement des arbitres affiliés à la Fédération française de foot sont des femmes actuellement. J'incarne un modèle, concède Stéphanie Frappard, et je ne peux pas faire comme si ce n'était pas le cas. Elle ajoute, la seule chose qui compte, c'est de prendre les bonnes décisions. C'est là-dessus qu'on est jugé. Fin de citation.
Merci Émile, bonne journée, à bientôt.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Et maintenant, on part à la rencontre de Noémie, infirmière de formation. Elle est spécialisée dans le sommeil des enfants et elle va nous dévoiler quelques techniques en compagnie de notre collègue Christophe.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Alors aujourd'hui, eh bien, on va parler de sommeil chez les tout-petits, puisque c'est c'est un élément primordial, c'est clé dans l'adaptation d'un petit bébé avec sa famille, avec Noémie. Bonjour Noémie.
Bonjour Christophe.
Alors c'est votre activité, vous êtes une infirmière de formation, on va en parler, mais vous êtes surtout appliquée par rapport au sommeil des tout-petits, et on sait que le sommeil des tout-petits, ça peut être vraiment la clé de l'harmonie dans une famille ou pas, hein.
Exactement, c'est tellement important et c'est comme ça que je suis arrivée à devenir sleep consultant, c'est parce que mon deuxième enfant ne dormait pas et à ce moment-là j'étais en pleine recherche de reconversion professionnelle et j'ai fait appel à une sleep consultant qui m'a vraiment aidée, qui a changé notre dynamique familiale parce que mon fils s'est mis à dormir pour plus longtemps la nuit, donc vraiment super et c'était assez une évidence de partir là-dessus, de se former à devenir sleep consultant. Étant infirmière et ayant travaillé plusieurs années au bloc pédiatrique et gynécologique, c'était vraiment une évidence pour moi. J'avais enfin trouvé ma reconversion. Et depuis, je suis ravie d'avoir fait ce projet et de monter mon business et d'aider des familles à avoir plus de sommeil.
Et on sait que c'est clé, hein. Et donc, bon, vous attelez pas forcément qu'aux Français, on va bien dire ça dès le départ, c'est vraiment pour tout le monde. Mais parlez-nous un petit peu des moments clés, en fait, des choses clés qui sont peut-être une évidence pour certains parents et peut-être pas du tout une autre évidence pour d'autres parents. Peut-être des erreurs à pas forcément faire dans l'approche du sommeil par rapport à un bébé ou à un toddler. Hein. On parle des bébés et des toddlers aussi.
Exactement. Donc moi, je commence à travailler avec des enfants qui ont à peu près 3 semaines jusqu'à 5 ans. Donc on travaille vraiment par tranche d'âge. Et pour toutes les tranches d'âge, ce qui est vraiment très important, c'est l'environnement de sommeil. Donc la chambre, que ce soit la chambre des parents quand le bébé est tout petit qui dort avec les parents, ou la chambre de l'enfant plus tard, c'est vraiment, il faut que l'environnement soit calme, noir le plus possible. sans distraction, parce qu'un enfant qui se réveille en plein milieu de la nuit et s'il voit quelque chose qui attire l'œil, il aura beaucoup plus de mal à s'endormir. Donc en fait, mon approche est vraiment globale parce que je prends en considération l'environnement de sommeil, la nutrition aussi qui est très très importante, on le sait tous. Même nous adultes, quand on a faim la nuit, ça nous empêche de dormir, donc les enfants c'est pareil. Je prends aussi en compte la famille, leurs habitudes de vie, leur style de vie, le style parental aussi, ce qu'ils préfèrent, comment ils éduquent leurs enfants, et bien sûr le sommeil, les différentes techniques, si jamais l'enfant se réveille en plein milieu de la nuit et qu'on sait qu'il n'a pas faim, qu'est-ce qu'on fait, comment on réagit, ou si l'enfant fait des siestes assez courtes toute la journée, qu'est-ce qu'on fait pour allonger ces siestes et avoir des siestes bien marquées tout au long de la journée pour après améliorer la nuit.
Alors, chez les enfants, on le sait que la routine, c'est vraiment d'or. Et ça, c'est vraiment une des clés, je pense, par rapport au sommeil. C'est d'avoir, c'est ce que vous faites, vous aidez les familles à instaurer certaines routines qui font que, en fin de journée, l'enfant tombe de sommeil.
Exactement. C'est une routine saine qui s'adapte vraiment, encore une fois, au style de vie des parents, parce que un parent qui va chercher son enfant à 5h30 à la crèche ou un parent qui va à 4h, on n'a pas exactement tous la même routine. Donc, c'est vraiment prendre ça en considération et avoir un nombre de siestes maximum, parce que selon les heures, selon les âges, les enfants ont besoin de dormir plus la journée ou moins la journée. Donc, c'est vraiment travailler sur la durée des siestes, les heures, parce que par rapport aux hormones, on a des périodes, donc les enfants et les adultes, on a des périodes où on s'endort plus facilement parce qu'il y a une hormone qui se met en route et on vise vraiment la sieste au moment où l'hormone commence à se produire.
Alors, il y a aussi la question de quand arrêter la sieste aussi, puisque il y a la phase où c'est super agréable que l'enfant dorme l'après-midi parce que ça fait une petite pause. Mais la réalité est que des fois, il y a un moment, la sieste, elle est primordiale, et puis il y a un moment, ça bascule. Et la sieste, elle devient plus dangereuse par rapport au sommeil du soir. Donc, vous aidez aussi les familles à comprendre ça.
Exactement, exactement. Et le soir, on a ce qu'on appelle des fenêtres de sommeil où justement cette hormone qui s'appelle la mélatonine se déclenche et qui a lieu vers 7 heures du soir. Donc on essaie vraiment de viser un coucher vers 7 heures, mais encore une fois, je m'adapte aux besoins de la famille et on joue sur la durée des siestes effectivement, parce que bon, un enfant qui dort toute l'après-midi forcément est moins fatigué la nuit. La nuit, il est couché plus tard, donc il dort moins la nuit, donc ça, ouais, effectivement, ça peut vite devenir compliqué.
C'est un cercle vicieux qui peut être.
Exactement. Très
si on parle justement des cultures, différentes cultures, vous êtes française, donc vous venez d'une culture française et francophone, mais aujourd'hui en Australie, il y a une culture qui est un petit peu différente par rapport au sommeil. Est-ce que vous voyez des différences entre, quand vous dites vous adapter aux familles, il faut sûrement vous adapter au style de vie des familles australiennes et françaises, et c'est pas forcément pareil. On sait qu'en France, il y a des enfants qui vont pas se coucher avant 9h, 9h30, 10h. Donc est-ce que vous voyez des différences au jour le jour?
Oui, exactement, parce que je travaille aussi avec des familles françaises qui habitent en Australie, des familles françaises qui vivent en France. Donc vraiment, je m'adapte, mais effectivement, ce qui revient souvent, c'est que bah oui, en France, on est habitué à manger un peu plus tard qu'en Australie, donc on met ses enfants plus tard, et des fois, ça peut poser problème. Le but, c'est vraiment d'avoir une nuit complète de sommeil et de coucher l'enfant le plus tôt possible. Et ce qui est bien aussi pour les parents, parce qu'après les parents ont leur soirée pour eux, plutôt que de passer du temps à essayer d'endormir l'enfant et que ça prenne jusqu'à 21h, 21h30, parce que l'enfant est ce qu'on appelle trop fatigué pour se mettre en sommeil profond, et donc ça crée des réveils plus fréquents en début de nuit.
Le lockdown, là, le confinement à Melbourne, en Australie, le coronavirus, tout ça, ça n'a pas dû aider. Tout ça, vous avez dû revoir. Est-ce que vous avez dû revoir un peu la copie pour certaines familles, parce que la dynamique dans la journée n'était plus la même. Donc, du coup, la dynamique de sommeil doit être forcément différente.
Oui, alors, ce qui est le point positif par rapport à ça, c'est que justement, la routine se met en place plus facilement parce qu'il y a moins de choses à faire la journée, comme on doit rester chez nous et sortir très peu. L'avantage, c'est qu'au niveau des parents avec qui j'ai travaillé pendant le lockdown, ils m'ont tous dit, bah, la routine est facile à suivre parce qu'on n'a pas de, on ne doit pas se déplacer pour aller à un rendez-vous et tout ça. Donc, ils ont vraiment su respecter les fenêtres de sommeil et c'est super. Après, ça n'empêche pas que même sans Covid, il faut vivre sa vie et avoir la routine parce qu'on ne peut pas non plus s'arrêter tout le temps à tout ça. Mais oui, le Covid a eu forcément un impact et l'impact, le ressenti que j'ai moi par rapport au retour des familles, c'est qu'ils arrivent vraiment à respecter les heures de sommeil et de permettre à l'enfant de faire ses siestes chez lui dans sa chambre, ce qui est forcément plus récupérateur.
Mais vous n'êtes pas comme Super Nanny quand même, qui vient et qui râle et qui gueule et
Ah non. Non, mon but, c'est vraiment d'apporter un soutien aux familles, un soutien moral et de les guider dans la mise en place d'une routine qui leur convient et améliorer le sommeil de leurs enfants. Et je suis vraiment à l'écoute et je comprends parce que moi-même, j'ai deux enfants et je sais que on ne fait pas toujours ce qu'on veut avec nos enfants.
Et c'est pas forcément la baguette magique. C'est pas forcément...
Voilà, tout à fait. Donc, je m'adapte vraiment. Et en fait, dans les différentes options que je propose, il y a un suivi de 2 semaines où on se contacte, donc la famille et moi, on se contacte toutes les 48 heures. Et justement, on revoit la routine, on revoit ce qui s'est passé, ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné. Donc, c'est vraiment une approche globale et qui s'adapte aux besoins de chacun.
Alors, il y a plein d'infos sur votre site web. On ne va pas dévoiler tous vos secrets non plus, parce que c'est pas une non plus. Mais vous nous devez rappeler l'adresse internet ?
Alors, c'est Sweet Dreams, petit bébé.
Sweet Dreams avec un S, bien sûr.
Avec un S, oui.
Merci, Noémie.
Merci beaucoup.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.